en juin dernier, à la fin de la saison, dans le bureau de Parc Jupiter.
Les amis, pour la saison prochaine...
Non, Charlie, tu vas nous laisser finir cette année.
Ouais, parce que moi, je suis au bout du rouleau, là.
Ouais, mais bon, faut quand même anticiper.
Non, mais point trop, non, faut. Voilà.
Non, mais l'année prochaine, c'est notre grand chelem, c'est la présidentielle.
Eh bien, justement,
justement, il faut anticiper un peu les choses.
Bon, bah d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire?
Allez.
Parce que, oh là là, on en a vu défiler des présidents. Oui, oui, des présidents jupitériens, des normaux, des de droite...
De droite.
Ouais, allez, Charlie, voilà, allez, tu vas directement à ce que tu veux nous vendre.
Ah ben, alors, j'ai pensé à un nouveau concept pour les florilèges.
Allons bon, d'accord. Voilà.
Mais ça marche très bien, le principe du best-of.
On a toujours fait comme ça.
Mais justement, cette année, c'est pour notre jubilé. Moi, j'ai décidé qu'on réécouterait les meilleurs des meilleurs de Parc Jupiter. Voilà.
Tu veux dire des very best-of?
Oui, les very, very best-of the florilège.
Mais ça consiste en quoi, en fait?
Eh ben, on va sélectionner les meilleurs invités depuis le tout début de l'émission.
Depuis 7 ans
ouais.
Oh,
ouais.
Il y aura peut-être Michel Thor.
Oh là, oui. Mais ça fait beaucoup de travail. Moi, je croyais que les florilèges, c'était pour se reposer, justement.
Bah, écoute, on se reposera quand on sera mort.
Oh. Moi, je pense qu'on va mourir de ne pas se reposer.
Bah, oui. Alors, voilà.
Figurez-vous, j'ai pris de l'avance. Donc, pour le premier golf florilège, je vous propose Guy Bedos et Marthe Villalonga. Hein, là, vous avez d'autres propositions?
Alors, justement, je pensais à Guy Bedos.
Ah, bah, moi, je pensais à Marthe Villalonga. Elle était super, Marthe, c'est cool.
Voilà, parfait, voilà donc ça, ça ne change pas. Hein, c'est... Je décide, puis vous acquiescez. Quoi, c'est...
Ouais, d'accord. Voilà, ouais, on fait ça.
C'est comme ça.
C'est mieux.
France Inter, vous écoutez les florilèges d'automne, cet espace où les blagues se ramassent à la pelle. Nous sommes allés rechercher les grands crus de cette émission et le nouveau millésime des chroniques. Nous allons réentendre Guy Bedos. Nous avions reçu Guy Bedos en 2014 et Marthe Villalonga aussi, qui est venue nous voir en 2015. Oh là là, Alex, c'était nos débuts. Bref, deux émissions sans Covid, sans Zemmour, mais déjà avec Éric Ciotti. On avait évoqué avec Guy Bedos le greenwashing, on va dire la verdification de François Hollande, ce qui nous permettra de mesurer à quel point rien n'a changé. Il était aussi venu Guy Bedos à la veille d'une élection à l'UMP où un candidat était désigné, c'était Sarkozy, et là ça permettra de mesurer à quel point là, tout a changé. Avec Marthe Villalonga, on a aussi évoqué François Hollande qui venait de découvrir Snapchat pour s'adresser aux jeunes, et puis on a parlé des actrices de plus de 40 ans. Alex Vizorek,
oui,
alors
j'adore.
Avec les chroniqueurs outre un moment Meurice d'époque, on reviendra au présent pour conjurer le futur. Alors qui avez-vous choisi aujourd'hui?
Exactement, le moment Meurice date lui aussi de 2014, les éleveurs de brebis contre les loups. Nous voyons que les thématiques de Guillaume n'ont pas trop changé non plus, peut-être le temps de savoir. Et les chroniques actuelles, la touche de chroniques contemporaines comme les morceaux de chocolat dans la Stracciatella. J'ai du Walidia qui nous donnera un tuto gifle. J'ai du Thomas VDB qui applaudit les ultra riches, et Dieu sait s'il est sincère quand il fait ça. Et Frédéric Fromet, là aussi nous parlerons de Thomas Pesquet qu'on ne connaissait pas encore à l'époque.
Oui, toute cette semaine, il y aura un Frédéric Fromet par jour alors.
Et oui, oui,
formidable. Pareil. Allons d'abord faire un petit tour donc avec le patron, oui. Guy Bedos. En 2014, il faisait ses adieux à la scène pour se consacrer à l'écriture de livres.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Merci Guy Bedos d'être passé par chez nous.
Mais c'est un plaisir, c'est déjà un plaisir.
Ah, vous avez quitté
la
Corse.
De vous entendre les uns les autres.
Oh, c'est un plaisir de vous recevoir.
C'est de la vie, c'est de la vie tout ça.
On est chaud comme une baraque à frites, Guy Bedos.
Albert Lebrun, vous l'aviez jamais cité dans vos revues de presse?
Non, parce qu'il me faisait un peu d'ombre.
J'imagine.
Donc j'ai préféré l'oublier.
Alors,
je me suis contenté de je sais plus qui d'ailleurs. Qui a compté, à part moi, quand je suis né?
Ah oui, non, c'est oui. Mais dans les revues de presse, c'était quoi? C'était des Giscard, des Mitterrand, des Chirac, des...
Non, je suis pas né sous Giscard.
Non, je sais que vous n'êtes pas né sous Giscard, mais dans vos revues de presse.
Je suis né comme humoriste politique sous Giscard. C'est lui qui m'a soufflé ma vocation.
Il y avait de quoi faire. Vous avez quitté votre Corse pour venir par Paris parce que on peut voir dans Guy Bedos un rire de résistance aux éditions Collection Opus. C'est un DVD où vous accueillez la caméra. Ça commence en Corse. Vous racontez votre parcours, votre vie. Et vous dites, la Corse, c'est mon Algérie de rechange. Vous dites ça pour quel aspect de la Corse par rapport à l'Algérie?
notamment pour l'aspect géographique, naturel. Oui. Non, parce que... c'est la Méditerranée, c'est la même mer, et comme je suis né en Algérie, nul n'est parfait, j'y retrouve voilà, des émotions, des impressions, des plaisirs aussi, d'enfance. Et comme je n'ai jamais tué l'enfant que j'ai été, c'est le bonheur, d'une certaine manière.
Alors, est-ce que vous êtes un peu en ébullition? Est-ce que là, vous êtes en semi-retraite? Parce que vous écrivez un livre, vous avez des projets encore. Comment? Vous êtes en semi-retraite?
On va en prendre une, hein. Et...
Connasse.
Voilà. Elle l'a fait un peu pour
mais
ça.
Mais non, vous avez fait vos adieux, vos énièmes adieux en tant que one-man show.
Mes adieux au one-man show parce que ma poule, c'est très...
Allez-y, mon gros lapin, je vous écoute.
C'est un métier très, très, très violent, le oui. one-man show. Seul en scène, pendant près de 2 heures. Bon, j'ai voulu partir en beauté. Et j'y ai réussi, d'ailleurs. Et donc...
Donc vous ne considérez pas comme en semi-retraite? Pas du tout.
Non, j'ai ma tombe au cimetière de Bouillon. Et ma retraite, tu seras là.
Très facile par Charles
Aznavour, vous avez dit, c'est ta combientième dernière?
Oui, c'est ça. Non, il m'a dit, c'est ta première. C'est tes premiers adieux, m'a dit.
Ah, c'est ça, voilà.
J'aime bien Aznavour, je l'ai connu. J'étais déjà jeune, j'avais 20 ans, et lui n'avait que 30 ans. Donc je l'ai connu plus jeune, Aznavour. Oui, il a 10 ans de plus que moi. Et,
vous aimez bien les Suisses en règle générale ou que Aznavour?
Ah, alors ça, c'est d'une très grande
racine. Vous savez,
oui,
c'est
d'accord,
bas.
Vous allez parler de ses contemporains.
Voilà. Non, vous savez quoi,
non,
à la place, on va écouter un peu de musique, on se retrouve juste derrière.
Couple of days and a real dark night. I miss my own child. I ain't seen her since that night. She left home about 8 and never to return. Our bodies floating through that river. Searching all around, day in, day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be? Cause every step I take, I can't think, oh Lord, please rescue me. Somebody tell me, what's going wrong? I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me, what's going wrong?
c'était Raphaël Saadic qui chantait Big Easy sur France Inter. Vous écoutez les Florilèges d'automne de Par Jupiter, cuvée 2014, donc voilà. Époque, si tu écoutes, j'annule tout, puisque nous réécoutons actuellement le patron de l'humour politique, nous réécoutons Guy Bedos. On va aborder le premier sujet avec vous, Guy. Le salut de François Hollande tient désormais à la sauvegarde de l'environnement. Objectif conférence climat 2015 pour remettre la France au centre du monde, même un monde en surchauffe.
Et si je ne suis pas réélu ?
Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche que tu sois pas réélu ? Tu vois pas comment la Terre est en train de devenir une poubelle ? Tu vois pas comment les gens sont malades de plus en plus jeunes ? Non, tu t'en fous ! Tout ce qui compte, c'est que tu sois réélu !
Tu es un idéaliste, c'est très bien. Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence.
Et alors ? Il faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens et surtout qu'ils continuent à voter pour toi ? Mais qu'ils crèvent les éleveurs et leur viande pourrie, ben qui se la garde ?
La crise, Colin Serrault. Alors, François Hollande veut faire de l'environnement et du climat un sujet de mobilisation nationale en 2015, le sujet qui peut rassembler les Français. Et un article dans Le Parisien aujourd'hui en France, paru ce matin, il commence comme ça, je vous cite le début de l'article. « Même le papier toilette de l'Élysée est désormais écolabellisé. Quant aux photocopies, c'est recto verso de préférence. » Donc c'est bien parti pour la conférence climat.
Oh là là, ça se présente bien, oui. Oh mon Dieu.
Les ours blancs sont rassurés, en tout cas.
Mais
on n'est pas dans la merde.
François Hollande, alors apparemment, l'écologie, c'était pas une préoccupation non. Jusqu'à ce que, bim, la conférence climat.
C'est-à-dire que, oui, dans les 60 promesses qu'il a faites et qu'il n'a pas tenues, d'ailleurs, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, il n'y avait pas ça. Mais ben peut-être que, je sais pas, c'est Emmanuel Macron qui lui a soufflé celle-ci.
Alors c'est pas, mais en tout cas, bah,
de toute façon, peut-être... vous avez parlé de Macron, c'est pas votre grand camarade.
Je m'en fous de Macron.
Non,
je sais pas pourquoi j'ai parlé de lui, j'y pense jamais.
Mais finalement, à l'ENA, on n'apprend pas les grands enjeux et la vision, parce que quand même, le climat, l'environnement, c'est quand même l'enjeu majeur planétaire. Non, et nos dirigeants s'en tamponnent
si
le coquillard.
Je pense qu'il veut avoir les voix des écolos, c'est tout. Et donc, c'est purement politicard, tout ça.
Mais alors, il n'y en a plus au gouvernement, pourtant.
Si on fait un peu le récapitulatif, Guy Bedos, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu l'abandon de l'écotaxe, il y a eu le barrage de Sivens. Est-ce que pour vous, c'est une imposture de plus, cette histoire d'écologie ?
Oui, vous savez, moi, je suis beaucoup plus sûr de mes dégoûts que de mes goûts. J'ai voté Hollande contre Sarkozy, surtout. Je m'en fous d'Hollande. Voilà. Et il est de gauche comme je suis d'extrême droite. Donc.
Ah bon ?
C'est un scoop. Vous avez voté pour qui au premier tour ? Si ce n'est pas indiscret.
Je ne sais plus.
Mais ça l'est.
Je suis un électeur parce que je pense que ne pas voter, ça peut justement ouvrir la porte à Madame Marine Le Pen. Donc même en 2017, je pense que j'irai voter. Je ne sais pas pour qui encore. Alain Juppé, peut-être.
Et voilà, Charline, on repasse de 2014 à 2021, car les chroniques, elles, sont plus récentes. Nous sommes en mai, et c'est Walidia.
Comment ça va, mes petits universalos indigénistes végano-sectaires ?
Eh ben
ouais, moi, jusqu'à il y a 2-3 jours, ça allait, hein, comme tous les comédiens en ce moment, je croulais sous le travail. Hein. Je me suis dit, je vais faire une petite pause, me mettre en activité intellectuelle réduite, je vais regarder TF1. Donc je bloquais devant une pub de voiture, tournée dans une ville sans bouchons avec de la place pour se garer partout. J'étais à fond dedans, mais c'est vrai qu'il est pas mal ce petit SUV là. À chaque fois que t'accélères, il y a un bout de banquise qui fond, mais je m'en balais avec des ours polaires de toute façon, je l'achète. Bref, je vivais un délicieux moment de décérébration consommatrice et là, bim, le président de la République qui apparaît sans prévenir comme un pop-up porno sur un site de streaming. Et là, il se lâche, il nous promet un vaccin à tous les Français avant l'été. Alors déjà, une promesse d'Emmanuel Macron, c'est à peu près aussi fiable que les chiffres du Covid en Chine. Mais une promesse de Macron qui découle d'une promesse des labos pharmaceutiques, c'est le serpent qui mord la queue d'un serpent qui lui mord la queue. On n'a même plus l'impression de se faire prendre pour des cons, on a l'impression de se faire prendre tout court. On rappelle qu'aujourd'hui, le monde entier pourrait être vacciné, mais ça impliquerait que les actionnaires des labos ne fassent pas de bénéfices. Et ça, ils ont dit plutôt crever. Hein, nous, pas eux. Les labos ont fait tellement de thunes cette année, à côté Amazon, c'est une PME. Rien que Sanofi, ils ont versé 4 milliards de dividendes alors qu'ils n'ont même pas trouvé le vaccin. C'était bien la peine de s'autoproclamer gouvernement de la Startup Nation Disruptive. Si c'est pour commander des vaccins, ils ont le niveau d'anticipation d'un mec qui t'annonce la météo d'avant-hier. Dans la négo face au Pfizer et sort, on dirait des stagiaires de 3e face à Bernard Tapie. À mon avis, pendant le deal des commandes de vaccins, la dernière phrase des labos, c'était « T'inquiète, ils ont pris le chèque. » Bref, la population est au bout du rouleau. Faudra pas faire les étonner quand on va voir débarquer des influenceurs suicides. Salut la commu, c'est génial. Je vois que vous êtes de moins en moins nombreux à me suivre. C'est que beaucoup ont suivi les conseils de mon tuto défenestration. Ça me fait trop plaisir. On vient de passer sous la barre des 10 000 abonnés. Si on descend sous les 5 000, je vous fais gagner un iPhone. La France s'enfonce dans la précarité. Ça commence à se voir. Il y a même des migrants qui font demi-tour. Ils se disent non, déjà qu'ils nourrissent pas leurs étudiants, nous laisse tomber. La grandeur de la France, ça devient relatif. Sur des milliers d'années d'existence, on a eu que 30 glorieuses finalement. Et c'était après la Seconde Guerre. Donc à cette époque-là, ton système d'évaluation du bonheur, il est pas précis. Quoi ? Il y a du beurre ? C'est le plus beau jour de ma vie ! Mais bon, quand tu veux camoufler tous les échecs gouvernementaux, faut appeler le professionnel du détournement d'attention. Gérard Darmanin. Gérald, pardon.
Ouais, attention.
Gérald, l'homme qui signait des contrats de bail à la pointe de son sgeg. Entre deux textos malsains, il a réussi à caser son projet de loi contre l'islam, enfin le projet de loi confortant les principes républicains, parce qu'il peut pas dire que ça vise les musulmans dans la loi. C'est pour ça qu'il le précise dans son livre. Les musulmans, c'est le fournisseur officiel de contrefeu depuis 30 ans, avec le classique débat sur le voile. Débat sur le voile qui, en termes de diffusion télé, ça a dépassé la grande vadrouille. Même les islamophobes, ça doit les saouler à force. C'est peut-être la saison de trop. Ils s'en sont à interdire l'accès à l'université aux femmes voilées. Alors, vouloir libérer les femmes en les empêchant de s'instruire, faut la sortir sans se déchausser de molaire, celle-là. En même temps, on se doute que Darmanin, il pense pas à l'émancipation des femmes en se réveillant le matin. Mais au lieu de répondre à des questions que personne se pose, il ferait mieux de répondre à la question posée par les féministes derrière moi. Comment faire pour que les hommes cessent de violer? Alors moi, j'avais une première solution. Mais ça implique des outils tranchants, beaucoup de souffrance et l'abandon de principes républicains. Donc, deuxième solution, que les hommes se saisissent aussi de la lutte féministe. En écoutant, en épaulant, en faisant le ménage dans leur cercle. Parce que pendant les combats qui touchent majoritairement les hommes, comme par exemple les manifestations contre les violences policières, les femmes répondent présent. Mais quand elle appelle à manifester contre les violences faites aux femmes, on est encore trop nombreux à avoir piscine et poney en même temps. Alors à l'heure où unité et solidarité deviennent des synonymes d'utopie, il serait temps d'agir sur nos mots. Parce que si on attend que nos dirigeants qui ignorent nos problèmes règlent nos problèmes, on n'a pas fini d'avoir des problèmes.
Yeah ! Ouais ! Ouais, ouais. Et retournons à présent, il y a 6 ans, avec le patron de l'humour politique, Guy Bedos. On est en train de le réécouter. Et d'ailleurs, on a redécouvert une séquence qui avait disparu de l'émission, qu'on avait testée quelques mois, et qui s'appelait le téléphone déconne, où vous, les auditeurs, vous aviez la parole chez nous. Alors que de souvenirs, Guy Bedos et le répondeur de Si tu écoutes, j'annule tout. Ce week-end, élection à l'UMP. Attention, élection à vote.
Je me fais un souci.
Mais non, mais vous ne soyez pas soucieux parce que vote électronique, ça devrait un peu mieux se passer. Et donc, Nicolas Sarkozy achève la tournée.
Comme diraient mes copains de banlieue, vote électronique, ta mère.
Et oui, mais là-dessus, Nicolas Sarkozy achève la tournée de son one-man show. On est triste, ça va vraiment nous manquer. Écoutez.
Ah oui. Tout le monde, maintenant, quand il parle de la campagne de 2007, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu, moi, cette campagne. C'est un long chemin. Non, je dis pas de rose. De pétales de marguerite. J'ai l'impression que tout le monde s'inclinait devant moi et que je suis devenu président de la République sans même m'en apercevoir. Vous avez déjà oublié les polémiques sur la racaille, le Karcher, les kiosques de Paris couverts. Cet homme est-il fou ? C'est de moi dont on parlait.
Voilà. Nicolas Sarkozy en tournée. Alors c'était un meeting à Vélizy. Il me semble, de toute façon, il fait les mêmes blagues à tous les meetings parce que c'est un véritable one man show. Vous en tant que spécialiste,
il m'a tourné autour et il m'a piqué des trucs.
Oui, je vois. Oui, cet extrait là, qu'est-ce que vous en pensez là? Il a de l'avenir quand même sur scène.
Je suis obligé de m'incliner quand même parce que avec les 11 ou 12 casseroles qui se trimballent au Basque depuis des mois, moi je n'oserais pas sortir de la rue. Et là, il se monte, et il a tous ses supporters, Nicolas, au bord de l'orgasme, même les hommes.
On en perd certains d'ailleurs, enfin ils en perdent de plus en plus. Ça,
oui,
c'est
bien sûr, mais...
Alors, c'est un orgasme, ça, Guy, ou pas?
Non. Il est à la une du Nouvel Obs aujourd'hui. Avec, à l'intérieur, par exemple, on peut lire que Nicolas Sarkozy a mobilisé son réseau dormant d'experts pour élaborer un corpus d'idées neuves. Donc là, on se rend compte toute la portée du terme réseau dormant. Parce qu'il n'y a rien, en fait, ce qu'il nous dit. Alors, le sous-titre, c'est Cette campagne l'emmerde. Voilà, Nicolas Sarkozy va se faire réélire.
Sa campagne nous emmerde.
Aussi, oui. Alors, sans stratégie, sans programme et sans idée neuve, et pourtant il risque de gagner. Alors, c'est peut-être pas le candidat des Français, mais le candidat de l'UMP.
Vous avez entendu, depuis le retour de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous a fait quand il a dit comme ça à Delahousse, je reviens?
Oui, ben...
J'ai cherché.
J'ai zappé.
Ah, vous êtes même pas dit, j'étais moi-même sur scène. Et
j'étais moi-même sur la 5 et j'étais plus intéressant, donc je suis allé me regarder moi.
Vous voulez me le dire, j'aurais zappé aussi.
Pourtant, Nicolas, pour les humoristes, c'est quand même une bonne nouvelle, le retour de Sarkozy.
Oui, oui, c'est vrai. Il nous a manqué. Ah, voilà. Oui, c'est vrai.
Clara Dupont-Moretti. Oui, Nicolas Sarkozy a dit, en parlant de François Hollande, il l'a qualifié de notaire de province sous antidépresseur. Est-ce que pour vous, la politique...
Il est drôle.
Ça se résume à un défilé de petites phrases comme ça assassine. Ou alors, est-ce que vous y croyez encore?
Non, mais je suis de parti pris, moi. Alors, de toute façon, je n'ai pas d'avis sur Sarkozy.
Non, mais sur la politique en général. Est-ce que vous y croyez encore ou pour vous, au bout d'un moment...
C'est une question ouverte.
Pour l'instant, j'écris en ce moment un journal, justement, non daté. Et je commente dans le privé, dans le public, etc. Mais par moment, j'ai vraiment envie d'éteindre ma télé, d'éteindre, de jeter mes journaux à la poubelle et tout ça, parce que... Vous savez, j'ai peut-être une petite remarque à faire sur les médias. Je trouve que beaucoup de chaînes, notamment de télévision, je n'attaque pas la radio, parce que je suis à la radio et que pour une fois que je reviens...
Oui, attaquez la radio quand vous serez à la télévision.
Mais absolument. Sont très très complaisants avec Madame Marine Le Pen et l'invitent beaucoup trop pour des riens. Et vraiment, je sais pas, j'espère qu'elle les récompensera si elle passe. Moi, en tout cas, je serai au Québec.
Alors, si on est en empathie avec certains sujets d'actualité ou valeurs de la société, appelez le téléphone déconne.
Oui, quelle transition.
Tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne, c'est au 01 56 40 69 51.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Si tu écoutes, j'annule tout.
Et donc si vous laissez un message, eh ben nous, on écoute tout. Enfin, j'écoute tout.
Alex, si tu...
Vous avez 4 nouveaux messages.
Oui, bonjour, c'est Guy Bedos, le vrai Guy Bedos.
Oui, quoi,
écoutez, Dave veut dire chez vous, j'étais dans son émission, écoutez, de chez Dave.
Nouveau message.
L'actuel président d'Égypte vient en France. Non.
Si. Nouveau message.
Dans mon émission du côté de chez Guy, je vais inviter des humoristes amateurs, des gens qui savent pas encore, qui sont drôles. Et la première, ce sera Nadine Morano. Ah !
Nouveau message.
Bonjour, Nicolas. Sarkozy a déclaré que Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Bah, c'est complètement débile de dire ça. Non, parce que vu son entourage... Pour parler politique pénale, faut me demander à Balkany et Dassault. Chacun ses compétences. Pour Dati, on verra pendant la Fashion Week.
Nouveau message.
Nadine Morano.
Fin des nouveaux messages.
Nous restons à la même époque, 2014, oui. Car Alex Vizorek, vous êtes allé rechercher une archive, un ancien moment Meurice.
Mais oui, il avait déjà ses petites marottes en 2014, Guillaume Meurice. Nous parlons brebis et nous parlons loup.
Eh oui, parce que je me suis rendu ce matin au pied de la Tour Eiffel, Guy, figurez-vous, où était organisée une manifestation d'éleveurs de brebis et de moutons contre leur ennemi, le loup. Il y avait des éleveurs de toute la France, même de régions où il n'y a pas encore de loup.
Les loups dont on parle de plus en plus, qui sont à 250 km.
Ah, ils sont loin alors encore.
C'est une façon de parler, loin. Est-ce que c'est en kilomètres ou en temps qu'il faut parler ? À notre avis...
Le loup, il voyage pas en TGV, donc a priori, vous avez le temps de voir venir.
Oh, non, 250 km, ça se fait très rapidement. En voiture, ça se fait très, très vite.
Oui, voilà, j'y avais pas pensé. Le loup a une bagnole, en fait. Et oui, à mon avis, vu qu'il gagne de l'argent, il va se payer le péage, quoi. Donc, restez sur vos gardes.
Il y a un loup,
il y a plusieurs, même. Les éleveurs ont peur.
À côté, il y a un type qui a eu 30 brebis dégorgées.
Ah oui, mais faut bien qu'ils mangent, les loups.
Faut bien qu'ils mangent, les loups. Et nous aussi, il faut qu'on vive. L'animal.
Mais vous en faites quoi de vos brebis, vous?
On les mange.
Ah ben voilà.
Oui, non, mais ça va pas, votre question. Hein. Mais on les respecte aussi, les loups. Mais qu'on fasse.
Ah bah vous voulez les buter?
On veut les buter, on veut en buter certains. Pour que
moi,
tout le monde vive.
Moi, j'ai mangé un steak de loup.
En harmonie. C'est comme quand il y en a trop quelque part. Hein. Vous connaissez ça? Quand il y en a trop dans un immeuble, eh ben, il y en a trop.
Oui, alors attendez, là, est-ce qu'on parle de loup? De quoi on parle? Je ne sais plus. Bon.
Mais pas de steak que mange Guy Bedos, en tout cas.
Non, Guy Bedos mange des steaks de loup, c'est encore un autre débat. Bon, c'est vrai que ils prennent l'autoroute, hein, les loups, donc ils peuvent très bien vivre en HLM. Pourquoi pas, admettons. Oui, parce que le loup est partout.
Il n'a pas de prédateur, le loup?
Son seul prédateur, c'est l'homme. Donc il faut que l'homme joue son rôle, parce que quand le loup se développe, il faut le maîtriser. Et sinon, c'est le loup qui deviendra le maître du monde.
vous faites point vos malins, là. Le loup, maître du monde. Et oui, ça nous pend au nez. Tremblez dans vos chaumières. Oui, car le loup fait peur.
Ben, nous n'imaginons pas de pouvoir côtoyer avec des loups, sachant qu'il y a combien de personnes qui vivent sur la Terre. Est-ce qu'on doit donner à manger à des loups ou à des humains?
Mais est-ce que vous avez peur du loup? Est-ce que, par exemple, votre grand-mère a été mangée par un loup?
Ma grand-mère n'a pas été mangée par un loup. Ma grand-mère a combattu les loups.
Ah oui?
Ma grand-mère a combattu les loups jusqu'au dernier degré.
Ah bah, jusqu'au dernier degré, hein. C'est comme la franc-maçonnerie, en fait, la chasse aux loups. Il y a des degrés, c'est comme ça. Poursuivons avec ce même éleveur.
Oui, mais s'il y a des gens qui aiment bien les loups et qui aiment bien savoir qu'il y a des loups vivants.
Mais pourquoi peuvent-ils apprécier le loup?
Je sais pas, il y en a qui aiment le tuning, il y en a qui aiment les loups, quoi.
Quand il y a en face une incidence grave sur la dynamique sociale, sur la dynamique...
Oh, bah, le tuning aussi, ça a une incidence grave.
On ne peut pas accepter la présence de loups.
Bon, on n'en saura pas plus, on n'en saura pas si le loup fait du tuning sur sa voiture, par exemple. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, le loup ?
Quelle est la plus-value apportée par les loups à la civilisation?
Ah oui, vous voulez dire que ce n'est pas les loups qui ont construit la tour Eiffel?
Qu'est-ce qu'apporte le loup à la civilisation, à notre monde actuellement?
Eh ben oui, non mais c'est vrai, il a raison, ce n'est pas un loup qui a écrit l'encyclopédie, peint le radeau de la Méduse, ni composé la flûte enchantée, mais ce n'est pas un loup non plus qui a construit la bombe à neutrons, inventé la religion, ni fait de Nabila une star. Par contre, c'est bien l'homme qui est capable d'exterminer les loups, et non pas le contraire.
À digérer
ces jours sans secours. Au sommet d'une tour penchée, la tranquillité la journée, le phono abandonné, je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pose ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué.
Au début, c'était le début, nous disent Laurent Garnier et Bertrand Belin, programmation musicale de Djoubaka dans cette émission. Et à présent, je vous propose de revenir 6 ans en arrière dans cette joyeuse émission avec Marthe Villalonga. Gros gros kiff de la réentendre, on l'aime tellement. Alors, elle devrait d'ailleurs figurer parmi les personnalités préférées des Français,
oui,
moi je
tout
trouve.
Tout à fait.
Alors, elle était venue nous voir en 2015 pour un film où elle donnait la réplique à Sandrine Bonnaire. Ça s'appelait La Dernière Leçon. Peut-être cela vous donnera-t-il envie de revoir le film ou simplement de le découvrir. Et vous allez voir repasser d'ailleurs à l'arrière-plan dans le décor le président François Hollande avec Marthe Villalonga.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Marthe Villalonga, je n'arrive pas à croire que vous êtes parmi nous. Qu'est-ce qui pourrait me le prouver ? C'est vraiment vous ?
Ben je suis là, hein, je suis pas un fantôme.
Enfin, c'est bien elle. En chair et en os. Marthe Villalonga, on peut vous voir dans La Dernière Leçon de Pascal Pousadou avec notamment Sandrine Bonnaire. Vous jouez Madeleine, 92 ans, ce qui vous vieillit considérablement, qui souhaite choisir la date et les conditions de sa mort. C'est inspiré du livre de Noël Châtelet. Qui est la sœur de Lionel Jospin. Et dans
et
le
qui
film.
Qui a d'autres qualités.
Et qui a, oui, bien sûr, évidemment. Écrivain, notamment. Oui. et Diane, dans le film, votre fille, jouée par Sandrine Bonnaire, eh bien, elle respecte votre choix. Alors, c'est bien sûr dramatique, mais aussi parfois drôle, parce que les situations dramatiques emmènent parfois la drôlerie. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez dans quelle situation, quelle goutte d'eau fait déborder le vase pour Madeleine ? C'est-à-dire dans une forme de fuite en avant, de déchéance, comme ça, il y a un moment où il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, où elle prend vraiment la décision, elle dit « je veux choisir ma fin de vie ». Qu'est-ce qui est le déclic ?
Ben non, elle a pris sa décision tout de suite, au début du film, c'est décidé. Elle en avait parlé 30 ans auparavant à ses enfants, d'où le livre, et il s'est trouvé que, quand elle leur a dit ça, les enfants, pareil, ils étaient jeunes, et ils ont tout de suite accepté, ils ont dit « mais oui, tu as raison, on va t'aider, etc., on sera là, à côté de toi ». 30 ans après, ça a changé la donne. C'est-à-dire...
Le déclencheur, on peut le dire, c'est que vous n'arrivez plus à conduire. Et ça, ça voilà. Vous pose un sérieux souci, parce que c'était
alors,
la chose...
Je perds plein de choses que voilà. J'aime faire. D'abord, c'est une femme qui vit seule. Sa fille vient la voir très régulièrement. Elle a une personne qui vient, qui lui fait quelques petites courses. Mais en fait, de jour en jour, elle s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'elle est en train de perdre. Voilà.
Et ça amène donc évidemment alors, le débat qui est très 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 difficile à ouvrir en France sur l'euthanasie.
Parce que c'est tabou et on ne sait pas pourquoi c'est tabou. Pourquoi ça marche dans les autres pays ?
Si, on sait pourquoi. Parce qu'il y a un lobby catho qui est encore un tout petit peu puissant et qui emmerde tout le monde.
Voilà.
Ça pose quand même une vraie question que chacun,
joliment dit.
Que chacun peut se poser. Parce que vous êtes, on le voit dans le film, tout va bien encore dans votre tête et dans votre corps. Alors ça va un peu moins bien, mais à 92 ans, c'est plausible. Donc,
c'est normal, voilà, c'est normal.
Oui, et vous voulez partir au moment où ça va bien, c'est
oui,
ça
mais
le vrai
parce
débat.
Que... Parce que c'est une fille, c'est une femme qui ne veut pas partir dans la déchéance. Elle ne veut pas devenir un légume. Elle ne veut pas se retrouver un jour à l'hôpital ou même chez elle, en train de se faire des piqûres, souffrir le martyr. Donc en plus, comme elle a été sage-femme toute sa vie, elle sait de quoi elle parle.
Et elle considère que c'est un droit de pouvoir choisir.
Et c'est un droit. Et moi, je dis que à ce moment-là. Chacun est libre de prendre sa décision.
Votre position à vous ?
Moi, je voudrais partir comme elle, debout et en bonne santé.
Okay, d'accord. Donc c'est vraiment, il y a en plus cette volonté de défendre une
sinon, course. Vous ne l'auriez pas accepté, le scénario ?
Oh, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que c'est quand même un beau scénario, c'est un beau personnage, avec des gens formidables autour.
Entre nous, on a un rôle à César, là. C'est plus pour le second rôle, là, ce coup-ci. Mardi la langue.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Inch'Allah, vous dites chez moi.
On va aborder avec vous le premier sujet d'actualité. L'équipe de communication de François Hollande a une nouvelle idée. Faire du président le premier homme politique français à avoir son compte sur Snapchat, un réseau social qui, pour l'instant, est encore chasse gardée des adolescents. La jeunesse, ce vivier de futurs électeurs.
Toi. Tu es en charge du mouvement qui va m'accompagner pendant ces prochaines semaines pour permettre à ta génération, à votre génération, de rencontrer la plus belle joie qui soit, celle du changement,
okay.
Celle de la victoire,
bad.
Celle de l'espérance,
in.
Comme en 1980 pour ma génération.
Bad.
Le plan numérique, c'est pas pour jouer.
L'Elysée représente fraîche, fraîche. François Hollande en duo avec le groupe Ottawan. Alors d'abord, non parce que c'est important,
oui,
hein,
oui,
c'est
oui,
d'ici
oui,
une semaine oui. ou deux, c'est le même monsieur qui a eu l'idée de Lucette. Qui a sans doute eu l'idée de Snapchat, faut bien s'en rendre compte.
C'est quoi d'abord Snapchat?
Très bonne question. Voilà. C'est très bonne question, Marc Vellalonga. C'est une application disponible sur iTunes.
iTunes.
C'est une application qui permet de partager des photos et de les détourner. Par exemple, je peux faire votre photo et vous mettre une langue en arc-en-ciel, comme ça.
Ah oui, c'est essentiel.
C'est essentiel. C'est essentiel pour l'Elysée.
D'accord.
Et aussi des courtes vidéos. Hillary Clinton s'est inscrite au mois d'août et les candidats à la présidentielle américaine se sont inscrits sur Snapchat parce que ça touche les jeunes ils peuvent faire des petits messages
qui s'est venu à moi voilà. Urnes
de 14 secondes
les futures urnes, parce que c'est un peu ça
c'est un petit peu le message Kleenex, c'est très court et jetable. Alors d'abord je me demandais, Marc Vellalonga, est-ce que vous êtes un petit peu connecté? Il me semble que oui.
Oui madame.
C'est pour ça que
je sais pas tout faire.
Alors, est-ce que vous êtes sur Tinder?
Tinder est un truc de rencontre, une application de rencontre.
Non.
Comment est-ce que vous vous connectez, Marc Vellalonga? Vous avez un email? Est-ce que vous
Facebook?
Oui, non, j'ai un email, ouais. J'ai un ordi.
Ben voilà.
J'ai un iPad.
Ah ouais, quand même. Donc, on peut vous ouvrir.
Et j'ai un smartphone.
On peut vous ouvrir un compte Snapchat.
Non, rien du tout. Laissez-moi tranquille. Mais,
smartphone, iPad, quand même, il y a cette volonté de pas vouloir être dépassé par ce qui se fait et de pas dire maintenant, j'ai pas envie de savoir. Non, vous voulez comprendre.
Oui, mais pas trop quand même. Hein. Pas trop.
Et comment vous sentez ce qu'il faut comprendre ou pas? Parce que le smartphone, bien joué d'avoir suivi les choses. Moi, ma grand-maman, un smartphone, elle est pas très douée. Hein.
Bah, c'est pas évident, effectivement. C'est pas ma génération. Mais enfin, j'apprends.
Oui, et puis tout est fait pour que ce soit simple.
Oui,
aussi,
c'est vrai.
Oui, voilà.
C'est
même pour nous, moi je ne suis pas un foudre de guerre, je peux vous dire. Je me disais, Marc Vellalonga, par quel biais vous recevez les messages politiques? Vous, quand vous entendez les politiques?
Les politiques, je mets à la poubelle.
Ah d'accord.
Oui, mais avant.
Donc
avant.
Je reçois rien.
Ah oui, avec le doigt comme ça, vous glissez vers la corbeille. Bim. Comme ça.
Exactement.
D'accord, très bien.
Un truc qui mange, vous savez.
Mais vous entendez, vous écoutez l'information?
Non, ça me gonfle.
Moi je sens que vous dites non pour pas devoir répondre, mais bien joué de votre part.
Est-ce que vous sentez que c'est une bonne idée de l'Elysée d'inscrire François Hollande sur Snapchat pour s'adresser aux adolescents?
Demandez-leur.
Ah bah eux, ils sont persuadés que c'est une bonne idée.
Bah oui, c'est très bien. Moi, la politique, je vous dis, ça me gonfle.
Mais là, c'est même pas la politique, c'est de l'image.
Oui. Ouais, c'est pareil.
Si par exemple,
si c'est de la propagande.
Votre attaché de presse qui est derrière nous se dit, tiens, Marthe, on va faire un petit compte. C'est moi qui m'en occupe. On va faire un compte Snapchat.
Je lui dis non.
C'est clair,
c'est
tout. Malin, ça, de mettre des photos comme ça nu de Marthe Vellalonga sur les réseaux, c'est très chiant.
Mais donc, conclusion, on attend de voir ce que ça donne François Hollande sur Snapchat. Pour vous donner un aperçu de ce qui se dit chez les jeunes sur les réseaux sociaux,
dites-nous.
Quand ils s'échangent des petits mots sur François Hollande, il y a un exemple sur Slate qui nous donne cette information. Alors je vous en cite un, le changement, c'est dans 2 ans, MDR. En tout cas, je ne pense pas, avec C, que tu vas changer grand-chose à part nous raccourcir les vacances sans S.
Oui.
Et un autre qui dit, il est moche, mais il respecte les religions et ne différencie personne. Et l'autre lui répond, t'es jaloux qu'il soit président ou quoi PTDR. C'est donc une très bonne idée. Alex, maintenant c'est back to the present.
Oui, asseyez-vous dans la DeLorean et je vous emmène chez Thomas VDB qui nous parle des ultra-riches.
Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui je suis content parce que je vais vous annoncer une très
très bonne nouvelle. Ah. Et je précise que je vous donne cette nouvelle en tant que Français. Parce que c'est une nouvelle, moi, qui m'a rendu trop fier et je voulais partager, bah, voilà, cette fierté avec vous. Et pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que la France, c'est un très beau pays. Alors, cette semaine, j'ai vu sur BFM un graphique qui compare l'évolution du patrimoine des ultra-riches un peu partout dans le monde. Alors, je rappelle ce que c'est les ultra-riches. C'est quoi les ultra-riches? C'est comme les gens qui sont ultra-sympas, sauf qu'à la place de riches, tu mets sympa. Donc, tu deviens ultra-riche quand t'as au moins 1 milliard. Donc, par exemple, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, je ne suis pas ultra-riche. Hein, par exemple. Et vous, aucune personne autour de cette table n'est ultra-riche. Vous êtes ultra-sympa.
Peut-être que même bien, ensemble, mais... on est comme ultra-riche.
Ensemble, même pas, je pense pas. On est riche, disons, niveau, on a l'eau chaude chez nous. Ouais. Voilà. Mais ce niveau de riche. Voilà. Et donc, devinez quoi? Le patrimoine des ultra-riches français, en 10 ans, il a augmenté de 439% exactement. Et alors, je sais qu'il y en a qui vont rager du fait que je dis ça, mais moi, j'ai une chose, c'est tant mieux pour eux. Ouais, tant mieux pour eux. Alors, ok. Tant pis pour nous aussi, surtout, mais tant mieux pour eux aussi quand même un peu. Parce que les Américains, les Allemands, les Anglais, ils plafonnent à 170%. Nous, 439%. On éclate les autres pays. Ouais, la France.
Bah ouais, super.
Eh, c'est pas nous, mais c'est les gars de notre pays. Bah ouais, c'est comme quand l'équipe de France, elle gagne au foot. C'est eux qui marquent des buts, mais nous, on est contents quand même. On défend leurs couleurs. Allez, les ultra-riches! On est tous ensemble! On va gagner! 439%! Voilà, je trouve, du coup, je trouve, moi, qu'on est dur avec Macron, parce qu'on est toujours là à dire, ouais, c'est le président des riches, il est pas efficace. Mais si on trouve qu'il n'est pas efficace, c'est peut-être parce qu'on est trop pauvre pour s'en rendre compte. On va peut-être arrêter de critiquer le gouvernement juste en regardant son petit nombril de pauvres. Ah ben ouais, faut essayer d'analyser ça à travers le prisme d'autres classes sociales, en se mettant dans les souliers de l'autre. Ah mais c'est sûr, ça demande un effort de se mettre dans les loup-boutins de quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais quand on le fait, voilà, on regarde les choses différemment. Guillaume Meurice, il fait des blagues sur Carlos Ghosn. Est-ce qu'il a essayé de se mettre à sa place au moins une fois pour ratatiner là dans sa main à violoncelle? Ah ouais. Puis en plus, ce qui est bien chez les ultra-riches, en tout cas en France, c'est qu'il y a un effet aimant. Ils s'attirent entre eux, parce qu'en faisant des recherches pour cette chronique à la bibliothèque de l'université, j'ai vu que Xavier Niel, le boss de Free, s'est marié avec la fille de Bernard Arnault, le boss de LVMH. Et imagine, t'es invité chez eux à Noël. Tu te dis, mais quel cadeau tu vas porter pour leur faire plaisir. Parce que moi, je fais mes confitures. Donc je dis, ouais, bah Bernard Arnault, je fais mes confitures moi-même. Enfin, nous apporter un pot Quetch Mirabelle. Ah ouais, c'est sympa quand même. Bon. Alors attendez, il y a une autre nouvelle qui est excellente, parce que cette semaine, Joe Biden, le président américain, il a décidé de taxer les ultra-riches américains. Et les riches, on le sait, si on leur demande de payer trop d'impôts, ils se barrent ailleurs. Bah ouais, c'est Macron, il a dit, bah il est top, Macron. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être devenir le paradis fiscal des Américains, mon pote. Eh bah ouais, franchement, le ruissellement, je vous dis, avant, j'y croyais pas. Mais là, à mon avis, ça va commencer à ruisseler. Là, on sent rien, mais attendez un moment. À mon avis, il y en a un qui va dire, ouais, j'ai reçu une goutte. Là, ça va tous craquer et paf, mon pote, c'est pas ruissellement, on va se prendre un dégât des eaux tellement ça va ruisseler. Là, franchement, je te dis, il y aura encore plus d'argent dans notre pays. Alors d'accord, évidemment, on n'en verra pas forcément la couleur, nous, de cet argent. Mais nos ultra-riches à nous, ils vont marquer encore plus de points en Ligue 1 des ultra-riches et on pourra les encourager encore plus. Allez, on y va, j'ai hâte. Les ultra-riches, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout.
Merci Thomas Védébé.
Bien, non? C'est pas mal quand même.
Vous faites plus de jingles de début, vous faites des jingles de sortie.
J'ai révolutionné l'univers de mes chroniques complètement en inversant et oui, simplement le système de présentation de mes idées.
Tout ce qui reste comme énergie dans cette chanson.
Je me vide, je n'ai plus rien à dire de toute l'émission.
Vous êtes toujours à l'écoute des florilèges d'automne de Par Jupiter. Par Jupiter époque, si tu écoutes, j'annule tout, car nous allons nous replonger en 2015 avec comme invité Marthe Villalonga. Marthe Villalonga, voilà le troisième sujet qui a trait avec vous, Marthe Villalonga.
Oui.
Mickey Sébastienne, elle a joué dans de nombreuses années, par exemple dans Avocat et Associés. Son nouveau projet vient de capoter, parce que la production lui a expliqué « tu es trop vieille », comme dans la série 10%.
Et ben alors moi je suis foutue. Hein.
Ce que dénonce la série de France 2 d'ailleurs dans 10%, donc la chaîne le pratique en somme. Mickey Sébastienne témoigne dans Libération aujourd'hui.
Et en plus, je vais avoir 40 ans.
Quand?
Un jour.
Dans 8 ans.
Mais on y est déjà. Ils sont là. Je suis au pied du mur dans le cul-de-sac. Pour vous, les hommes, c'est pas pareil. Charlie Chaplin a été père pour la dernière fois à 73 ans.
Oui, mais il ne pouvait plus porter son môme.
Ah. quand Harry rencontre Sally. Voilà, c'est le portrait en dernière page de Libération aujourd'hui de Mickey Sébastien qui explique qu'elle a été brutalement évincée d'un projet qui était déjà bien abouti sur la chaîne de service public. Elle explique, parce qu'on lui a dit, son interlocuteur, tu es trop vieille, voilà. Et elle dénonce la profession qui crève de ce règne de l'arbitraire et de ces évictions brutales que dès qu'on a 40 ans, c'est beaucoup plus difficile. C'est une problématique que vous avez connue, vous Marc Villalonga, ou pas du tout, justement ?
Non, j'ai eu cette chance. Mm-hmm. J'avais des personnages qui demandaient au contraire à être ou plus vieux ou quoi, mais pas... C'est pas le côté, par exemple, jeune première et tout ça. J'ai jamais été. Donc, automatiquement, je suis passée à côté. Merci, mon Dieu.
Eh oui, ça a été votre chance. Et d'ailleurs, dans Un éléphant, ça trompe énormément. Vous jouez la maman de Guy Bedos et vous avez 2-3 ans en plus que
deux
lui.
2 ans.
Ah oui. Juliette Arnault, ça, c'est un souci pour les comédiennes, toutes les comédiennes.
Ah, bah, oui, mais c'est ça. Première. Moi qui suis jeune première. Non, mais c'est ça. Le cinéma est un vampire. Il n'aime que la chair fraîche. Mais c'est connu. Mais c'est pour ça que les jeunes comédiennes devraient lire Portrait d'idole.
Voilà, mais.
Avant de se lancer.
Oui, mais enfin, il faut quand même des vieilles personnes. Enfin, quand je dis vieilles personnes.
Non, mais bien sûr.
Des gens de 45, 50 ans.
Il faut de tout, bien
sûr. Si vous avez une petite jeune qui a 18 ans, sa mère, elle en a combien ?
Alors, juge d'instruction, elle n'est pas crédible.
Hein, c'est ça. Non, mais en plus, à Hollywood, je crois qu'il y a une actrice qui a beuglé en disant que elle, maintenant, pour être avec un acteur à l'image qui a 50 ans, il fallait ne pas avoir plus de 30.
Oui, mais voilà, c'est ridicule.
C'est quand même inquiétant.
Et voilà. Et ça fait monter la courbe du Botox. Vous avez une proposition indécente à faire à Marthe Villalonga ?
À toutes les fins d'émission, on propose à l'inviter de participer à un sketch, est-ce que vous acceptez ?
C'est pas politique. Hein,
c'est pas politique, un petit peu, mais c'est moi qui ai écrit le rôle, donc c'est moi qui ai les responsabilités.
C'est de votre faute.
Oui, ce sera de ma faute. Je vous ai donné le rôle de cette fameuse Lucette, parce que François Hollande y a été, Gaspard Ganzer avait tout organisé, et ce qu'on ne sait pas...
Son communicant,
ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait une répétition, et bien nous y étions, Guillaume Meurice et François Hollande, je suis Gaspard Ganzer, et vous êtes cette fameuse Lucette.
Lucette.
C'est jingle.
Lucette, voilà Lucette.
Alors, est-ce que vous avez passé une belle journée, une belle après-midi, Lucienne ?
Moi, c'est Lucette.
Oui.
Monsieur Hollande, c'est écrit sur la fiche qu'on vous avait préparée.
Ah oui, pardon, je reprends. Lucette, alors c'est joli comme prénom, ça date du Moyen-Âge. On a perdu
Je ne sais pas, monsieur le président. En fait, je ne m'appelle pas Lucette. Ah. C'est le service de communication de l'Élysée qui a trouvé ce prénom.
Oh, dis donc, Gaspard, c'est un peu exagéré, ça peut être.
Oui, mais c'est-à-dire que.
Mais comment vous vous appelez ?
Kimberly.
Oui, c'était pas exagéré, oui. Mais, Lucette, ça vous va bien aussi. Alors, je vous sers quoi ? Enfin, vous me proposez quoi, Lucette ?
Une petite prune ?
J'ai l'impression que vous allez en coller une. Le président va boire un café, madame.
Oui, non, mais moi j'aime bien la prune de Lucienne.
Non, Lucette, c'est Lucette. Lucette. Oui, c'est écrit sur votre fiche et il y a écrit à côté, il prend un café,
oui,
monsieur
parfait,
le président.
Oui, parfait.
Bon, comment ça marche, cette machine ? Où on met les capsules ?
Ah, hein ? C'est pas votre machine ?
Non, on me l'a apportée hier. C'est une Nespresso. D'ailleurs, quand on m'a apporté une Nespresso, je me suis dit, c'est Georges Clooney qui m'a donné.
Oui, pas trop, désolé. Dites, Lucette, c'est plutôt mignon chez vous.
Oui, c'est pas mal, mais je préférais avant.
Ah, quel avant ?
Non, mais laissez tomber.
En fait, avant-hier, on m'a fait venir Valérie D'Amido, et elle a tout refait.
Ah, oui, effectivement, c'est normal, ce soit moins joli. Chez moi aussi, on a tout refait à ma place.
Valérie D'Amido ?
Non, une autre Valérie, Trier-Beller. Sinon, vous aviez des questions à me poser.
Oui, attendez, oui. Je sors mon papier.
D'accord.
Êtes-vous content d'être un président exemplaire ? Pensiez-vous tenir aussi bien vos engagements ? Ça fait quoi d'être favori pour 2017 ?
Félicitations.
Merci, mais j'ai juste lu.
Non, félicitations Gaspard, j'aime beaucoup ces rencontres improvisées. Allez, c'est pas sur ma fiche, mais laissez-moi vous embrasser, Lucienne.
Lucette !
On quitte cette époque.
Qu'est-ce qu'on aime Marc Villalonga ?
Mais on l'adore, on l'embrasse. Oui. Et Frédéric Fromet, là, on revient en 2021, je pense.
Eh bien oui, parce qu'on parle de Thomas Pesquet. Autant vous dire qu'à l'époque, Marc, elle n'était pas du tout au courant qu'on allait envoyer un Français dans l'espace. Et Fromet va nous le chanter.
Bien, cette semaine, on a pu mesurer toute la portée scientifique de la mission spatiale de Thomas Pesquet. Il a pris une photo de la Normandie. Un peu plus près des étoiles pour prendre en photo la Normandie. Une photo truquée où on voit pas la pluie. Un peu plus près des étoiles, combien d'heures de vol et d'argent pour photo photographié Le Havre et Rouen. Il a quitté la terre, mais pas Facebook, Instagram et Twitter, où il poste tout fier ce qu'il a pris pour son 4 heures. Qu'est-ce qu'il fout dans l'espace, à part publier depuis son habitacle? On dirait une feignasse d'intermittent du spectacle, un peu plus près des étoiles, pour prendre aussi en photo Paris. Pourquoi faire, on sait bien que personne ne sourit. Un peu plus près des étoiles, avec un Jap et deux amerlocs. C'est pas marrant non plus, heureusement y'a TikTok. Un peu plus près des étoiles, il faut bien qu'il s'occupe, on espère. Bientôt un selfie avec un petit homme vert. Ohé, ohé, là j'ai combien d'abonnés? Ohé, ohé, pour liker ce que j'ai bouffé. Ouh, il est parti pour chatter. Laissez-moi tweeter, tout le reste je m'en tape. Seul compte les hashtags et les likes. Oui, laissez-moi tweeter. Un peu plus près des étoiles, la manœuvre est quand même délicate. Pour éditer des stories sur Snapchat. Un peu plus près des étoiles, un petit pas pour Thomas Pesquet. Mais un grand pas pour ses abonnés.
Mais quelle chanson gold!
Merci Alex.
Et merci Charlie, j'aime beaucoup ce concept.
Mais oui, c'est la fin de cette émission pleine de souvenirs donc. Et un autre souvenir nous attend demain avec deux autres moments millésimés, je dirais. Voilà, nous sommes allés rechercher l'émission avec Morane et celle avec Raymond Poulidor. Voilà. Oh, à demain les amis.